Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre colloque. La déstabilisation des démocraties par les réseaux sociaux, c'est un sujet épineux et que nous avons l'honneur de traiter aujourd'hui avec nos invités spéciaux, messieurs Brice Couturier, Alexandre Lacroix, Gérald Bronner, Nicolas Gastineau et enfin Loïc Nicolas. De ce fait, nous avons avec nous aujourd'hui des journalistes qui pourront poser des questions à nos invités afin qu'on traite ce sujet et qu'on voit qu'est-ce qu'il en est vraiment. Est-ce que les réseaux sociaux participent-ils vraiment à la démocratie ou sont-ils un obstacle d'une façon ou d'une autre? Nous commençons avec Monsieur Gérald Bronner.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Bronner avec nous. Alors, je vous rappelle que M. Bronner a été nommé par le président Emmanuel Macron à l'Élysée afin d'établir une commission chargée de rendre un rapport fin décembre 2021 sur le complotiste, les contenus haineux sur Internet et les fake news.
Bonjour à tous, je suis Gérard Brunet, sociologue français, professeur de sociologie à l'Université de Paris. Je suis également membre de l'Académie nationale de médecine depuis 2017.
Alors, Monsieur Bronner, parlez-nous des théories des complots. Pourquoi, d'après vous, les théories du complot constituent un danger pour nos sociétés et pour nos démocraties?
Pour moi, les complotistes représentent une réelle menace pour la société, tout simplement car ils déstabilisent l'opinion publique, ils remettent en question la version réelle des faits, la parole des médias, des experts et cherchent ainsi une alternative à l'opinion régnante. Je ne dis pas que c'est pas bien. Il faut au contraire stimuler notre capacité intellectuelle du doute, de notre indépendance. Leur démarche semble parfois même tellement élaborée qu'elle frôlerait l'investigation scientifique. Mais ces derniers plongent vite dans les conclusions hâtives, assument des faits sans avoir pris le temps d'enquêter longuement sur le sujet. Ils prennent les coïncidences comme acquis et plongent ainsi dans des illusions de réalité, dans des baies cognitives, modèles de déviance des normes ou de la rationalité où le sujet crée sa propre réalité des choses en fonction des choses qu'il reçoit. Ils mènent ainsi les gens dans la société à des faits erronés, basés sur leurs propres croyances. Quelquefois, les complotistes peuvent même changer de manière de se comporter dans la vie réelle et être esclaves du mirage qu'ils nomment réalité.
Très bien. Mais alors, avez-vous une solution préventive à nous suggérer ou à nous exposer? Et que pensez-vous de la viabilité de cette dernière?
Je propose de faire des suggestions multinationales afin que les intérêts de ces entreprises cessent d'être importunés et qu'à la fois la propagation de fausses informations cesse d'infecter notre monde. Ces entreprises ont le pouvoir de contrôler ce qui est publié ou pas sur le réseau. Alors, il serait bénéfique pour tout le monde qu'un système puisse empêcher la publication de telles informations ou encore même seulement des alertes les désignant afin que le public puisse en rendre compte. Il est temps que les multinationales aient le contrôle sur ce problème affectant tout un système. C'est une solution qui va affecter en théorie 60% de la propagation de fausses informations. Sachant que les complotistes ont la capacité d'être eux-mêmes en possession d'un blog ou une application dédiée à ce genre d'informations.
Mais alors, que pensez-vous de ces grandes entreprises, comme vous nous l'avez dit auparavant, qui acquièrent tellement de puissance qu'elles se retrouvent souvent hors de contrôle et qui se sentent intouchables, même face aux mesures prises par l'État?
Selon moi, les entreprises se sentant intouchables face aux mesures mises en place ne se rendent pas compte de l'évolution de la notion de vérité dans notre société. Ainsi, l'image de leur marque sera forcément dégradée s'ils ne mettent pas en place les mesures prises afin d'éviter la désinformation de masse. Par exemple, depuis que le public a compris que des fermes de trolls avaient manipulé depuis la Russie Facebook pour diffuser des contenus pro-Trump, l'image de ce réseau social fut tachée et Facebook n'est maintenant plus fiable aux yeux de la société et notamment du jeune public. C'est en partie à cause de cet entachement de l'image du réseau social que seule l'ancienne génération utilise Facebook et qu'elle a été délaissée par la nouvelle. De plus en plus de citoyens cherchent à ne pas être victimes de campagnes de désinformation et cherchent donc à lier les entreprises à leur cause. Ainsi, les entreprises ne souhaitant pas mettre en place ces mesures se montrent comme indifférents à cette manipulation et désinformation et voient leur image entachée.
Merci. Passons à présent à M. Alexandre Lacroix. Pouvez-vous vous présenter ?
Bien sûr, alors bonjour à tous, je suis Alexandre Lacroix, écrivain et journaliste et directeur de rédaction de Philomag. Je suis l'auteur notamment de l'article à propos du rapport Bronner, dont Gérald Bronner, ici présent, est le dirigeant.
Alors, pouvez-vous nous présenter et nous définir un peu le rapport Bronner et puis nous dire que dénonce-t-il ?
Oui, alors le rapport Bronner, c'est un rapport qui a été publié par la commission appelée Lumière à l'ère numérique, dirigée par Gérald Bronner ici présent. Et celui-ci propose multiples solutions sur le volet pédagogique notamment, donc côté éducation, et aussi sur la régulation des réseaux sociaux, la régulation du web et tout ce qui concerne toutes les problématiques qui y sont associées. Notamment, on retrouve une dénonciation de la déplateformisation. Donc la déplateformisation, c'est un phénomène qui est mené par les entreprises qui tout simplement bannissent d'une certaine manière les utilisateurs, notamment d'une plateforme, d'un réseau social. On peut citer notamment les fameux exemples, le célèbre exemple de Trump, qui a été notamment banni de Twitter. Et cette déplateformisation pose notamment problème sur des questions démocratiques. On a aussi une dénonciation de la survisibilité des influenceurs. Il y a quelques solutions qui sont proposées à ce propos. Ou encore la dénonciation des pièges à clics. Donc, ce sont les fameuses fenêtres que l'on retrouve sur des sites qui sont notamment d'une grande crédibilité, comme notamment Le Monde. Ce sont des petites fenêtres qui peuvent notamment véhiculer des infox, qui mènent à des sites qui justement diffusent ces infox. Ou encore une dénonciation notamment du métaverse. Donc le métaverse, c'est un nouveau système qui est en plein avènement aujourd'hui et qui pose de nombreuses questions quant à la distinction entre la réalité et le faux, et donc à la distinction entre les infox et les vraies vérités.
D'accord, merci. Alors, quelles sont les principales propositions faites par ce rapport ?
Alors, le rapport a proposé plusieurs solutions face à ce problème et certaines d'entre elles sont à mettre en lumière et très importantes pour ce souci-là. Cependant, il y en a d'autres qui nous rendent plus hésitants, pour le coup, surtout sur le volet éducatif et pédagogique, tels qu'ils vont vouloir créer ou même développer des enseignements nouveaux dans l'éducation nationale, ce qui est encore très flou et eux-mêmes suggèrent demander recours aux enseignants eux-mêmes pour pouvoir créer un programme nécessaire. Mais finalement, cette solution ne prouve aucune viabilité sur le long terme.
Merci, monsieur Alexandre Lacroix. Passons à présent à monsieur Loïc Nicolas. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur Nicolas. Alors,
bonjour à tous, je suis Loïc Nicolas, spécialiste en argumentation et persuasion, docteur en langue et lettres, ULB, diplômé en sciences sociales et politiques, Université Paris 1.
Alors, monsieur Loïc, parlez-nous de comment les théories de complot nous poussent à nous remettre en question sur notre identité.
L'étude de ce qu'on nomme théorie du complot, conspirationnisme ou encore complotisme peut relever de nombreuses disciplines, sciences politiques, histoire ou psychologie, etc. Selon moi, plus on s'attache à une activité dans notamment ici les théories du complot, plus on a tendance à accroître le temps et l'effort que l'on juge nécessaire de lui consacrer. S'ensuit alors un potentiel effet d'emballement qui peut s'avérer difficile à enrayer, notamment lorsque l'activité, l'idée ou le problème structure fermement la vision du monde, autant que le rapport aux autres. Ce qui peut nous permettre de nous remettre en question sur notre identité.
Et donc, est-ce que la démocratie joue un rôle en faveur des théories du complot ?
Tout d'abord, dans le texte que j'ai récemment écrit, je justifie le fait qu'il ne faut pas condamner les propos conspirationnistes en s'appuyant sur la notion de la démocratie, mais également celle de la liberté, tout en se référant au fameux Guy Archer. Selon lui, il ne faut pas condamner les propos conspirationnistes, car la démocratie et la liberté d'un pays ou d'une société permettent aux individus de s'associer et de défendre parfois les idées les plus folles. Selon lui encore, cette démocratie oblige que les théories du complot aient le droit d'exister dans l'arène politique et d'occuper elles aussi une place importante au sein du marché bigarré des croyances et des idéologies en tout genre. Donc pour répondre brièvement à ta question, oui, la démocratie joue bien un rôle majeur et très important en faveur des théories du complot.
Ok. Et est-ce le refus du hasard qui nous mène à croire aux théories du complot ?
Avant tout, il faut savoir que le hasard n'a pas du tout sa place au sein de la théorie du complot. Car, selon moi, tout ce qui a lieu au sein de ces théories est censé être le résultat d'intentions et de décisions purement humaines. En effet, le refus du hasard amène en grande partie les personnes à croire de plus en plus aux théories du complot, car cela attribue une rationalité toute puissante et une fiabilité à toute épreuve à ces théories. Une rationalité qu'on peut trouver introuvable, car répondre à la survenue incidente des signes noirs paraît difficile sans hasard. Les conspirationnistes donc attribuent cela à une absence de toute puissance et de l'incapacité que nous avons à maîtriser vraiment autant qu'expliquer les événements du monde.
Et finalement, est-ce que les théories du complot ne sont qu'une manière pour se réconforter ou sont-elles des vérités absolues ?
Tout d'abord, la démarche conspirationniste repose sur la production d'un fait qu'on englobe dans un complot beaucoup plus large. En effet, quand on n'a pas d'explication rationnelle, on se retourne le plus souvent vers justement ces conspirations. On peut prendre comme exemple les attentats du 11 septembre, prétendue conspiration juive. Il s'agit en effet d'inclure tout ce qui se passe dans le réel dans une sorte de mythe comploté. De ce fait, au fond, ça rassure les gens de tout interpréter en fonction de ces mythes. Autrement, un complotiste interprète tout ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire dans le réel, dans sa théorie, une manière de se rassurer. On peut donc bel et bien affirmer que la démarche conspirationniste est bien totalisante et au fond rassurante. Autrement dit, ces théories de complot, qui sont alors une manière de se réconforter, ne sont pas vraiment des vérités absolues, ni parfaites ou totales, puisqu'elles ne nous permettent pas d'accéder à la réalité en soi. Elles sont plutôt une sorte de béquille visant à rendre la vie possible, tout simplement.
Merci, Monsieur Loïc Nicolas. Passons à présent à Monsieur Brice Couturier. Bonjour, Monsieur Brice Couturier. S'il vous plaît, présentez-vous brièvement.
Donc, bonjour, je suis Brice Couturier, un journaliste et militant ancien éditeur à France Culture. Et j'ai écrit entre 2019 et 2022 « La démocratie malade des réseaux sociaux » qui retrace l'influence des différents médias numériques sur la démocratie, sur l'opinion, ainsi que les différentes formes de démocratie que celles-ci peuvent prendre sous l'influence des réseaux sociaux.
Merci. Monsieur, si je vous dis la désacralisation de l'information, comment pouvez-vous mettre cette notion en lien avec l'utilisation actuelle des réseaux sociaux ?
On peut observer effectivement une désacralisation de l'information par l'utilisation actuelle des réseaux sociaux, dans le sens où ceux-ci ne jouent plus le rôle de gatekeeper, d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils ne permettent plus le maintien de la vérité, ils ne jouent plus qu'un rôle de relayeur dans un relativisme ambiant des opinions où chacun peut énoncer sa vérité, donner son opinion, propager une rumeur. Les réseaux sociaux participent à une désintermédiation et à un épuisement de l'esprit critique des utilisateurs des réseaux sociaux, où il est devenu d'autant plus difficile pour les médias autres, avec l'émergence des réseaux sociaux, de contrôler cette désinformation et désacralisation de l'information, qui est notamment due à une radicalisation et une polarisation des opinions. On voit d'ailleurs le nombre de théories du complot exploser, et avec la création d'essaims également, des groupes hors des partis traditionnels politiques, aux idées souvent radicales et alimentées par les fake news et la désinformation et désacralisation véhiculées par Internet, qui participent à cette désacralisation de l'information. Il s'agirait d'ailleurs peut-être, un peu à la manière des sophistes que combattait Socrate au 5e siècle avant Jésus-Christ, d'un débat entre savoir-vérité et art de la rhétorique ou moyen de communication de celui qui parle. Le souci de la vérité n'est plus là, puisqu'il est noyé dans le pluralisme et le relativisme et arguments d'autorité des opinions.
Et pensez-vous que les médias ont une réelle influence sur la politique actuelle ? Et si oui, à quelle étendue ?
Je pense qu'on peut affirmer qu'aujourd'hui, les médias, et particulièrement les réseaux sociaux, ont une grande place et influence dans la politique actuelle. La source d'information première aujourd'hui, c'est Internet. Donc la démocratie se transforme peu à peu en démocratie dite d'opinion, c'est-à-dire sous l'emprise des médias. Les opinions sont de plus en plus polarisées, et cette polarisation des opinions s'est doublée d'une méfiance générale envers les institutions démocratiques et les autorités élues. Plusieurs médias sont utilisés par des régimes qui sont d'ailleurs pas toujours démocratiques afin de véhiculer les idées du parti ciblé, de rallier des électeurs ou de lancer des fausses rumeurs sur un parti, un gouvernement ou un dirigeant opposé. Mais à plus grande échelle, les médias, les réseaux sociaux contrôlent aujourd'hui plus que jamais les opinions des électeurs. Et donc, en démocratie qui, pour le rappeler, démos veut dire peuple et kratos, le pouvoir, l'opinion du peuple a le pouvoir politique qui est influencé directement par les médias.
Et ceci prise en compte, les réseaux sociaux qui sont accessibles à tout le monde et le totalitarisme sont-ils réellement mutuellement exclusifs ?
Eh bien, les réseaux sociaux sont des lieux de liberté, des laboratoires d'idées et de foisonnement des idées qui favorisent l'accès à l'information et dans une certaine mesure à une certaine éducation civique et un partage et échange des idées permettant les rassemblements. Cela autorise une opposition aux injonctions qui peuvent être celles d'un régime totalitaire et affaiblissent de cette manière les pouvoirs du dit régime. Le totalitarisme, à l'opposé, un régime de contrôle total d'une opinion de masse pourrait être exclusif des réseaux sociaux. Mais en réalité, les régimes totalitaires qui passent par la censure et un contrôle serré de l'opinion publique empêchent l'éveil des opinions dissidentes n'excluent pas les réseaux sociaux et leur liberté d'expression. Or, les deux coexistent. C'est le cas de la Chine avec WeChat, un réseau social très utilisé puisque unique et contrôlé par l'État et censuré afin de contrôler les opinions allant à l'encontre de celles du gouvernement. Ici, le régime totalitaire de Xi Jinping possède un réseau social. Mais les événements récents nous ont montré que les régimes totalitaires ou dictatures en Iran, en Russie ou en Syrie passaient par une exclusion des réseaux sociaux lorsque ceux-ci devenaient une menace, un danger pour le régime afin d'empêcher ou limiter les soulèvements du peuple et de contrôler l'opinion publique. La liberté d'expression des réseaux sociaux n'est d'ailleurs pas la veine des régimes totalitaires, mais ils ne s'excluent pas mutuellement l'un l'autre, puisqu'ils s'excluent seulement dans la mesure où les réseaux sociaux deviennent un danger pour le régime totalitaire.
En somme, on dit souvent que les réseaux sociaux sont un pilier et une preuve de la démocratie. Êtes-vous d'accord et pourquoi ?
De mon point de vue, les réseaux sociaux qui pourraient être considérés comme une preuve ou un pilier de la liberté d'expression, elles-mêmes piliers de la démocratie, ne sont une preuve ou un pilier de celle-ci uniquement dans la mesure où ils garantissent un pluralisme des idées et une plus grande expression des opinions. Ils ne sont de nos jours plus un pilier à cause de la désinformation et de par le fait qu'aujourd'hui, on pourrait rapporter les réseaux sociaux dont la libre expression est détenue par un petit groupe de firmes capables, elles aussi, de contrôler ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas ou peu. Ce pilier ou preuve que constitueraient les réseaux sociaux tendent donc aujourd'hui vers l'oligarchie plutôt que la démocratie.
À présent, nous avons notre côté M. Nicolas Gastineau, journaliste et philosophe contemporain. Il s'est penché sur la problématique de l'expansion des théories du complot, en particulier à cause de la gamification. Bonjour M. Gastineau, présentez-vous.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Gastineau, j'ai été ancien élève de Paris 8e à Paris. Je suis diplômé de Sciences Po et aujourd'hui je suis rédacteur en chef chez Philosophie Magazine.
Expliquez-nous, pourquoi peut-on dire que les QAnon forment réellement une communauté ?
Tout d'abord, QAnon est une théorie et un mouvement conspirationniste, d'extrême droite sans doute, venu des États-Unis, regroupant des promoteurs de théories du complot, selon lesquelles une guerre secrète a lieu entre Donald Trump, l'ancien président, et des élites implantées dans le gouvernement, comme Hillary Clinton. Les milieux financiers et les médias qui commettraient des crimes pédophiles, cannibales et sataniques. QAnon est un cercle. Il est autoréférentiel, s'alimente seul et produit son monde alternatif. Il n'est pas réel. Il y a aussi une hiérarchie organisée entre des milliers d'adeptes et nous des relations entre eux. Ils ont tous comme centre d'intérêt QAnon. Le système de communauté pour eux est très important. Pour le mouvement et le développement de ce dernier, les membres entre eux sont très soudés. Ils s'aident, se respectent les uns les autres, à la façon d'une communauté et l'atmosphère qui règne dans les discussions, etc. est très paisible, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
En quoi le jeu peut-il être, les jeux ARG peut-il être un danger à notre réalité et vérité ?
Alors, tout d'abord, les jeux ARG sont des nouveaux jeux en réalité alternée avec des analogies. Les jeux ARG et d'autres jeux pervasifs sont la base de l'hypothèse de la gamification du complotisme qui n'a pas encore été envisagée. Dans un jeu vidéo, vous rentrez dans un univers virtuel en incarnant un personnage virtuel. Dans un ARG, c'est l'inverse, c'est le jeu qui rentre dans votre réalité. Ces jeux changent notre réalité, notre manière de penser, de réfléchir. En jouant à ces jeux, on échappe à la réalité, à notre réalité. On se crée donc un monde imaginaire et cela est très dangereux, que ce soit pour notre santé mentale ou physique. Nous oublions de vivre dans le monde réel, on oublie comment réfléchir de nous-mêmes et si on a des enfants, on oublie même qu'on en a. C'est une illusion du monde réel qui nous pousse à se créer un faux personnage de nous-mêmes et ainsi nous éloigner de la réalité dans laquelle nous vivons. Ces jeux envahissent la vie quotidienne, sans limite, clairement définie entre l'espace du jeu et la vie réelle. On nous fait passer de fausses idées et idéologies qui vont pourrir notre cerveau. Ces idéologies de complotisme absurdes pourrissent la jeunesse et créent énormément de tensions entre les politiques à cause des fausses informations répandues. Ces fake news de complotisme sont lancées à travers des messages codés dans les jeux ARG. Ces fausses informations de complot créent des conflits, des violences et même des meurtres. Les jeux ARG représentent un danger imminent pour notre société et pour le bien-être de notre société.
Mais alors, quels sont les points communs que partagent les jeux ARG et les Quanon?
Comme vous le savez, les jeux ARG, c'est les jeux en réalité alternée. C'est un récit interactif dans lequel vous serez dans un monde irréel, dans lequel vous allez faire des choix qui vont justifier tout votre futur. Donc justement ici, comme Quanon, vous serez dans une communauté qui est irréelle et qui s'apparente à un monde irréel aussi, parce que en fait vous serez dans un monde tout à fait réel mais en même temps irréel. Vous aurez l'impression d'être maître de vos choix, mais en fait pas du tout, on vous oriente indirectement. Et c'est là le danger de Quanon et des jeux ARG en général.
En conclusion, que peut-on dire des dangers de la gamification?
On peut associer la gamification à l'apophénie. Tout d'abord, l'apophénie, c'est l'allitération de la perception qui conduit un individu à attribuer un sens particulier à des événements banals, en établissant des rapports non motivés entre les choses. En jouant en ARG, on peut ressentir la paranoïa des signes. On a une confusion entre ce qui tient du réel et de la fiction collée dans le vertige. Pour Quanon, ça se représente comme chaque détail est une preuve. En effet, pour Quanon, tout a une explication.
À l'issue de ce colloque, et pour conclure, nous allons demander à certains élèves leur avis par rapport au travail qui a été fait. On commence avec Sophia.
Alors, sur la forme, ce travail nous a beaucoup apporté. En effet, ce travail a été effectué en groupe. Il nous a permis de développer nos capacités à travailler en groupe, à communiquer, à se répartir le travail, et aussi à s'approprier une recherche de chercheurs et de scientifiques et à analyser un texte et à le résumer. De plus, de nos jours, comme nous sommes la génération Z, nous passons énormément de temps sur les écrans et sur les réseaux sociaux. Et toutes ces recherches sur les dangers des réseaux sociaux et des fausses informations qui circulent sur ces derniers nous a permis de nous sensibiliser et de prendre conscience du danger et du revers de la médaille de tous ces nouveaux moyens de communication actuels.
Merci Sophia. Nous passons à présent à Iliès.
Bonjour à tous. Moi j'ai trouvé ce travail de colloque formidable parce qu'il nous a permis en fait d'en connaître plus sur le fonctionnement des réseaux sociaux envers la démocratie. Et j'ai trouvé que ça nous a permis du coup de nous sensibiliser sur l'influence que peut avoir un réseau social comme Twitter sur une présidentielle. Mais également, les ARG, comme on a pu en parler, malgré qu'ils puissent être, et qu'ils puissent être amusants, ils ont certaines limites à ne pas dépasser parce que ça peut nuire à la réalité des gens. Donc j'ai plutôt trouvé ça bien pour sensibiliser les élèves.